Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 15 mars, une semaine après la fameuse fête de quoi? De la femme? La Journée internationale de la femme. Bon, qu'on ne présente plus à un certain âge pour nous autres. Hein. Oh, la Journée internationale de la femme, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, parce que depuis qu'on en parle. Hein, on n'a pas vraiment vu un grand changement arriver. Bon, on va dire que maintenant, c'est passé dans le statut de ce qu'on appelle institution. Bon, c'est devenu une institution, la Journée internationale de la femme. Alors, même si ça n'a plus vraiment l'impact que ça avait, mais bon, en fait, parce que l'institution, c'est une habitude, un lieu. Que nous venons toujours visiter et revisiter, une sorte de topic qui nous fonde aussi, sont des marqueurs qui, dans le cas de la Journée internationale, la femme relève plus comme ça de l'évolution de l'histoire, de la place de la femme dans la société. Alors, bon, fête aux femmes, comme on a l'habitude de dire, on le dit, mais ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont. Qui élèvent seules les enfants. Donc, c'est plus si c'est encore des femmes. Et c'est qui. Bon, c'est devenu tellement banal qu'on finit par les ranger dans la catégorie socio-économique qui parle de femmes, de parents isolés. Parents isolés, fragiles et où se recrutent d'ailleurs. Beaucoup d'enfants en difficulté, parce que c'est la famille aussi qui, pas qui se fragilise, mais disons qu'une seule personne a géré les enfants, c'est pas facile. Et quand on est deux, c'est mieux. C'est mieux à la fois pour chacun des parents et pour les enfants. Et l'équilibre des enfants, l'équilibre psychologique. Et je dis ça parce que. Je pense, ou plutôt, oui, je pense là à l'image de Trump avec le fils, le dernier fils, probablement, je crois, de Musk, qui marchent ensemble, ils vont emprunter l'avion, enfin, l'avion privé du président, c'est Air Force One, mais je pense c'est un hélicoptère, et bon, c'est la même chose, hein. Avion présidentiel. Donc au début, on voit comment l'enfant, il marche, hein, c'est sur le gazon, c'est pas évident, il marche un peu comme ça, en soulevant, il marche à la pointe des pieds, et puis en se soulevant un peu, comment on dit ça, il dandine un peu, voilà, et c'est le gazon peut-être qui fait rebondir. Bon, Trump, lui, marche, hein, il n'a même pas l'air de le calculer. Bon, l'enfant, il sait qu'on lui a dit l'horizon, c'est l'avion, enfin, l'hélico, donc il y va. Et ce qui est impressionnant, c'est que de temps en temps, quand même, il cherche où se trouve le président Trump, et puis après, ils sont tous les deux, hein, ils y vont. Et ce qui est vraiment alors marquant, c'est qu'arrivé vraiment près de ce fameux hélicoptère, avec ce garde qui est tenu au garde à vous, là, pour le coup, il cherche vraiment le président à se rapprocher de lui. C'est pas un enfant avec le président, parce que c'est sûr que lui, il connaît bien Trump, ils ont fait. Elon Musk a rejoint à la campagne en privé. Donc, pour lui, c'est une deuxième figure parentale. Et l'image est très très belle parce qu'après, bon, l'enfant il est obligé de se rapprocher. Alors pour le coup, pour le moment, il essaie d'y aller tout seul, un peu en confiance, tout seul. Et puis après là, il se rend compte que plus on se rapproche de la cible, plus bon, il a besoin. Ça doit être la première fois qu'il prend cet hélico, sinon il chercherait pas. Et puis finalement, il tourne là autour du président Trump, qui, je sais pas comment l'appeler, Trump ou président Trump. On est dans une forme de langage aujourd'hui. Il y a certains qui vont peut-être comment je vais dire, trouver que de dire Trump, c'est impoli, qu'il faudrait dire le président Trump. Et que ça manque de classe et de raffinement, de finesse française. Bon, je sais pas. On est ici dans le cadre d'une émission radio. On va dire que la radio, c'est quelque chose de plus tam-tam du village, écho du village. Donc, si ça écorche les oreilles des gens que je dise Trump au lieu de dire président Trump, je m'en excuse. Mais franchement, c'est sans mauvaise intention derrière, ni sans marque d'irrespect. Donc, après, le petit, c'est bien, Trump, il sent bien que le petit lui tourne autour. Il faut qu'il. Enfin, c'est un papa, hein, il se comporte un papa, il sent que le petit l'épuise, tient par la main et ils y vont. Ah, c'est formidable. Ils sont presque arrivés au niveau de l'avion. Il tient. Et c'est très parlant parce qu'aujourd'hui, on a très peu d'images où on voit un papa avec son fils. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les mamans, hein, avec les fils ou avec les filles. C'est dommage. Alors, un papa. Et son fils qui vont au travail, c'est encore mission impossible. C'est devenu assez rare que ça frappe, et surtout la tenue. Alors, on avait l'effet du mimétisme total. Et c'est Musk, en fait, qui surprend aussi là. Il surprend parce que c'est le monsieur qui arrive. Il fait dans la reproduction des gamins, c'est-à-dire familial. Il a sept gamins, quelque chose comme ça, six ou sept gosses. Bon, c'est vrai avec des femmes différentes, pardon. Mais quand même, il est papa jusqu'au bout. Et c'est frappant parce que quand on voit, souvent, c'est un homme qui se trimballe, c'est la femme, pardon, qui se trimballe comme ça avec les gosses. Mais là, c'était Musk. Et Musk, avec le président Trump, c'est vraiment. C'est des jumeaux, hein. C'est des jumeaux, on ne peut plus dire le contraire. Mais là, il y a une entente tellement fusionnelle entre ces deux-là que c'est incroyable. Il aurait pu être le fils de Trump que ben, ce serait pareil. Alors, ou peut-être pas, parce que souvent, entre le fils et le père, ça peut ne pas donner. Bon, en tout cas, distinguer donc ce Musk, comme ça, reproducteur, famille, bon papa, de l'innovateur qui fait dans l'IA, l'intelligence artificielle, ça donne le tournis, quoi, comprends pas, c'est le grand écart. Bon, après, on dit, ah, on verra bien, on verra bien. Le progrès, parfois, on résiste, et puis après, bah. On ne sait pas s'il faut dire non, un non sec. Ah bon, encore que les histoires de transgenre et toutes les conneries de changement de sexe, c'est non sec. Bon, là, pour l'IA, ça dépend de l'usage qu'on en fera, des usages qu'on en fera. Et là, ça dépend de la responsabilité vraiment des décideurs politiques. Et les décideurs, on va dire, bah, quand on dit décideurs politiques, disons plutôt des décideurs, des acteurs politiques, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques qui sont des acteurs politiques. Et donc, Musk, c'est le réformateur, hein. C'est lui qui nous intéresse le plus que celui qui fait le, je sais pas, tout ce qu'il crée, là, ça donne un peu le tournis. Mais c'est intéressant, bon, il est prodige, hein, ce monsieur. Alors, le réformateur Musk, oui, ça nous intéresse, ça nous interpelle, parce que dans l'administration aujourd'hui, il nous fait ce que lui est Trump. Hein. Et ils sont d'ailleurs jumeaux aussi par leur provenance. C'est pas des politiciens de carrière, donc c'est bien, très bien. Et vraiment, c'est le bouffe, grand changement. Ils apportent une culture de l'entreprise dans le service public, dans l'administration, l'État. Et c'est vrai qu'ils sont dans une logique d'entrepreneur, oui, de grand businessman. Donc, il a une entreprise à gérer. Il faut qu'elle réussisse. Jusqu'à présent, il y avait le grand débat, le service public, ce n'est pas une entreprise. C'est ce que les socialistes disent. Et qu'il ne faut pas regarder à la rentabilité du service public. Ça, ce n'est pas seulement les socialistes, aussi de gauche qui étaient. Et peut-être c'est ce que les insoumis peuvent dire, notamment M. Mélenchon, il peut le dire que le service public n'est pas un service comme un autre, qu'il fallait distinguer entre le service public généreux et le service privé qui a des devoirs de rentabilité, compétitivité, tout ce qu'on veut. Mais ah, peut-être que Mélenchon va pas être content. Par mon interprétation, mais je ne dis pas que je mets ces paroles-là dans sa bouche, mais c'est des idées, des projections idéologiques. Musk et Trump arrivent et ils renversent complètement le schéma en disant, oui, le service public a un devoir d'excellence et de performance, voire de compétitivité. Vous voyez un peu comme si le service public pouvait même mieux faire que, devrait mieux faire que le service privé. C'est vraiment un renversement de tendance incroyable. Alors, ils sont pour ce que je vais appeler l'optimisation du service public. Ah, voilà, on va optimiser le service public, c'est-à-dire qu'on va le rendre moins cher et plus efficace. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on va rendre ce service public en faisant en sorte qu'il coûte moins, notamment par rapport aux effectifs qui sont toujours très, très, très gonflés. Hein. Les services publics est très souvent sureffectif. C'est ce qu'on disait, mais on n'arrivait pas à le prouver. Là, Musk le prouve. Tout ce qui est doublon, souvent, c'est ça, doublon. Tout ce qui est aussi sorte de poste vide mal défini, qui cachait aussi des embauches un peu fantaisistes ou de copains. Tout ça, il a essayé, il les a débusqués, il n'a pas essayé. La débusquer, hein, parce que c'est des freins, pas à la croissance, mais des freins au service, justement, public, comme on le comprend, parce qu'un effectif trop lourd, il crée une forme d'inertie, ben c'est la bureaucratie. Hein, voilà. Le problème de la bureaucratie, c'est qu'elle est lourde à mobiliser, parce que à se mouvoir, parce qu'elle a un effectif trop gonflé pour faire peut-être des choses qui devraient être faites. Avec moins d'effectifs. Donc, on supprime les lenteurs, on rend la bureaucratie plus, enfin, on va plus l'appeler ça bureaucratie, à ce moment-là, on rend le service public plus, l'administration, ou tout au moins, plus léger, et on essaye d'aller vite et bien, vite et très bien même, vite et très bien même, parce que une fois que ça va, on ne passe pas par X intermédiaires pour arriver à prendre une décision. Ah, effectivement, ça facilite les choses. Bilan, donc, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui en prend un coup. Ils vont licencier la moitié, c'est énorme, de fonctionnaires du service public. Si la Poste, l'USPS, qui va perdre 10 000 employés, il y a eu des accords de pré-retraite. Et puis d'autres possibles, ben il faut partir parce que ça doit pas. Il faut pas. En fait, c'est cette philosophie où là, pareil, j'appelais ça le traitement du traitement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a un problème à traiter, mais son traitement prend plus d'argent que le problème lui-même. C'est-à-dire le bureau, l'institution, l'organisme. Et là, franchement, coup franche. Et c'est. Que dire de Musk? Il y a tellement de choses. La CIA, c'est pareil, c'est passé. Le Pentagone, ça y est passé. C'est tellement de choses qui passent qu'on a le tourné. Mais on sait juste qu'il faut rendre la chose légère, aller vite, être efficace. Et partout, il peut avoir des nœuds gordiens, on les coupe. Et c'est comme ça, on avance. C'est vraiment pas de charge, hein, pas de charge. C'est à la fois militaire et à la fois économique, et vraiment, on optimise tout, on optimise les ressources, on optimise les effectifs, on optimise le temps, on optimise la relation aux citoyens, on optimise le gain pour nos citoyens. Alors, il fut une époque, si on parlait de ça, surtout dans les années 80, qu'on pouvait optimiser le service public, ça allait être une catastrophe. Bien, je sais pas, on n'a pas encore parlé de l'hôpital en tant que tel. Ils ont plus parlé du système de la sécurité sociale, la gestion des hôpitaux, on ne sait pas encore. Et on verra, on verra. Bon, ça, c'est du Trump-Musk. Et en diplomatie, s'il n'est pas Musk qui règne, c'est Trump lui-même. C'est Trump lui-même qui est le maître des cérémonies. Bien sûr, il y a un secrétaire d'État, mais Rubio, il est un peu, comment on va dire, le sénateur. C'était un sénateur, Rubio, il a toujours été très modéré, hein, lui. Même quand il se fâche, il est tellement lisse que ça ne se voit pas. Contrairement à Trump, qui, lui, il se fâche pour de vrai. Donc, la même règle d'or, hein, on optimise L'investissement, voilà, c'est plutôt ça. On va pas dire les investissements, optimisation du service public, optimisation de l'investissement, de l'argent investi, par exemple, cet argent consacré à la guerre en Ukraine, il faut l'optimiser ou le rationaliser, cet argent qu'on va consacrer aux organisations internationales. Pareil, d'où la sortie de l'OMS, parce qu'il n'est pas possible d'optimiser cet investissement, il va être englouti et bouffé. C'est pareil pour le climat ou les sorties de ce sommet, parce que là aussi, il ne va pas optimiser son investissement. Ah, c'est incroyable, hein? Trump, il fait une éducation politique à ceux-là même qui pensaient qu'ils étaient les maîtres de la politique. Et c'est vrai que ça ne peut que créer du désarroi. Bon, en termes publics, on ne va pas quand même dire, parce qu'il y a des spécialistes hein, de l'espace public. Donc, quand on dit optimisation de l'investissement dans l'espace public, ça va énerver. On va dire optimisation de la gestion du bien public. C'est pas mal. Optimisation de la gestion du bien commun, c'est pas mal puisque cela profite à tous. Alors, jusqu'à présent, on voyait, c'est, comment dirais-je, c'est changer l'environnement institutionnel, ce que les autres appellent, ils vont dire la gouvernance, hein. C'est quelque chose qui impacte le moral, vous voyez, parce que, quelqu'un disait, c'était, je crois, dire de Hall, Monsieur Hall, Monsieur Hall, en anglais, je peux vous dire que ça servait à je suis inspiré, ah, je peux pas le dire. C'est un chercheur de l'école de Palo Alto qui avait écrit, le titre exact du livre, mais c'est que le schéma qui était au-delà, voilà, au-delà du langage, le schéma qui était illustré sur la couverture, montrait bien que le citoyen avait devant lui, il marchait les yeux fermés en fait, et ce sont les, il voyait, ce sont les institutions qu'il voyait pour lui. C'était un peu ça. Il voyait, c'était facile en l'occurrence de mettre les médias, mais il n'y avait pas que les médias, qui voyaient pour lui, qui parlaient pour lui, et dont lui, il avançait en aveugle, comme un automate. C'était une façon de dire que. Je ne sais pas s'il appelait ça le langage silencieux ou au-delà du langage, vous chercherez assez Hall, et qui avait d'ailleurs fait une critique très forte contre la bureaucratie à l'époque en disant qu'il y avait une seule chose qui dépassait le président des États-Unis, c'était la bureaucratie américaine. Ah ben, Trump est venu prouver le contraire et révolutionner cela. Donc, l'environnement institutionnel. C'est un peu comme un moulage inconscient, vous voyez, qui moule un peu tous les esprits, sans, bon, même lorsqu'on se fâche, vous voyez, ou qu'on est content ou qu'on n'est pas content, les institutions nous bercent parce que nous les avons collectivement construites, si on veut, établies, si on veut, acceptées, si on veut, ben on ne peut pas. Faire sans, on navigue là-dedans, et c'est vrai que ça formate notre morale même avec eux, si on en a une, et la perception des choses, les comportements, les valeurs, c'est-à-dire qu'il y a un tout qui fait que si les institutions fonctionnent bien, on est là dans un cercle vertueux, hein, c'est la projection qu'on se fait, normalement la société est plus. Se portent mieux. Voilà, les gens sont plus sereins, ils se sentent pas trop traumatisés, trop agressés par la violence institutionnelle. Mais si les institutions ne fonctionnent pas bien, bah, ils se sentent vraiment agressés et puis la société va mal et les gens se plaignent, ils se plaignent. Alors, Trump refait vraiment la politique. Il change tout. C'est une philosophie politique différente. Enfin, mais peut-être c'est celle qu'on devait appliquer depuis. Et lorsqu'elle arrive, on s'est dit, ah, enfin, on les supprime. Mais peut-être pourtant c'est ce qu'on veut hein, depuis. Mais ça amène à, ça prête à réfléchir beaucoup sur tout ce que Machiavel disait sur le pouvoir, en fait. Sur le cynisme, le degré de cynisme qu'il fallait avoir pour être accepté. Et là, on voit bien que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est le degré d'empathie qu'il faut avoir pour être accepté. Et puis surtout, alors là, bon, là où c'est aussi toujours politique, pas politique. Bon, c'est l'optimisation, l'investissement, il faut pas trembler, là-bas, il ne doit pas trembler. Alors, l'optimisation, l'investissement en politique étrangère, bah, c'est l'Union européenne qui sclérosée, bien sûr, qui panique, qui tremble, qui ne sait plus où donner la tête parce qu'elle est restée en retard. La Chine, la Russie ont avancé là-dessus. Probablement ce qu'on va appeler les BRICS, je sais pas, parce que l'Afrique du Sud aussi fait ce qu'elle peut. Mais la France, elle a pris tellement du retard, c'est elle qui est en pointe dans ces choses-là. Et depuis oui, les années 80, elle a reculé, elle a reculé, elle a reculé. Tout son, je dis avec, c'était Chirac et Villepin, les derniers soldats français, tous les soldats, les maréchaux, tous ces. Cette superbe française, elle est passée de l'autre côté, dans le train-train, la banalité, le bling-bling socialiste, enfin de gauche, enfin, marchand, c'est ça, c'est même pas de gauche. Alors, c'est triste pour la France, voilà. Mais c'est bien pour l'Amérique, voilà. C'est bien pour l'Amérique et l'Europe n'a qu'à aller se faire foutre. L'État doit rechercher l'optimum et peut l'atteindre. Voilà la philosophie. C'est nouveau et c'est comme ça. Là où les démocrates disaient que, oh non, l'État peut jamais être à son optimum parce que vraiment, on devait accepter cela comme une fatalité alors qu'ils étaient en plein magouille. On nous dit non, c'est pas une fatalité, ça peut changer. Ben, on peut pas refuser cela, on est content, content, content. Et surtout si on est adepte d'une conscience universelle, de la considération de l'être humain. Bon, dans son essence anthropologique, ontologique, je veux dire le plus petit dénominateur commun, ben, c'est l'environnement. Il faut un environnement sain, il faut un environnement propre. Et il faut un environnement où on s'est dit que tout le monde peut être contrôlé quand même et montrer qu'il travaille. C'est ça le projet démocratique en fait. Et c'est curieux que ça passe par les républicains, par des économistes, par des fous inventeurs innovants comme Musk, qui ont l'air d'avoir la tête. Dans la Lune, alors qu'ils ont les pieds sur Terre, vous voyez un peu la translation. Hein, et c'est fou, quoi, c'est fou que ce soit ces deux-là, Trump et Musk, quand on disait que la politique était pourrie, voilà. C'est-à-dire qu'un politicien pur jus n'aurait jamais pu changer les choses, il aurait toujours fait semblant de bouger un peu par-ci, de bouger un peu par-là, mais il fallait quelqu'un comme ça, un outsider qui arrive et qui dise ça marche pas comme ça, je vais vous montrer comment ça marche, et là c'est oh, c'est grandiose ce que Trump fait, il fallait le faire. Bon, ce qui nous amène à l'Afrique, au Cameroun, un projet qui est. C'est la deuxième partie de l'émission et la fin, disons la troisième partie. Toujours parce que c'est dans cette mouvance, c'est dans cet esprit, ce projet-là. C'est EDF qui fait les centrales, qui construit les centrales nucléaires. Comment on appelle ça? C'est même pas des centrales, les barrages. Centrales. Les barrages, ici, en ce moment au Cameroun. Alors, on a ce barrage-là qu'ils sont en train de monter, ils en ont fait déjà pas mal. Il y a celui qui arrive ici, près de moi, c'est le bébé Kikot. Faut retenir Kikot, parce que bébé, ça va être compliqué. Kikot, c'est dans ce barrage qu'on dit qu'il serait le plus grand barrage de la sous-région ici. Sous-région, je ne sais pas si c'est du centre ou du centre et du sud de l'Afrique, Mais c'est un très grand projet parce qu'il ambitionne de vendre l'électricité aux pays limitrophes, à d'autres pays de l'Afrique. Bon, alors ils ont une démarche qui est innovante, qui est un peu à la trompe comme ça, qui est sociologique. Alors ils ont décidé d'entrer, de connaître, de rencontrer, voilà, de rencontrer un peu les populations. Il paraît qu'ils font ça partout où ils vont. Ils sont venus me voir et puis m'ont demandé. Ils viennent avec un questionnaire. Oui, il y aura un barrage, etc., etc. Ouais. Moi, comme ça, je pensais que, vu le contexte environnement pauvre des zones du bas, comme on va dire, j'allais dire un mot que pas, ouais, des villages africains, là où la Banque mondiale dit qu'on vit avec moins de 2 euros par moins de 2 euros, je ne sais pas quoi, le seuil de pauvreté. Vu cela, j'attendais des questions très utilitaires, hein, c'est-à-dire, vous avez besoin de quoi? On me l'a dit la veille, on parlait qu'il passerait, moi je crois que c'est une formalité. Puis je vois des gamins arriver, c'est des chercheurs qui ont été formés, il paraît qu'ils font ça depuis, et ils viennent d'un autre barrage. Et ils me demandent, bon, évidemment, de leur parler l'environnement. Moi, je leur dis tout de suite, hein, on a besoin de quoi? On a besoin de routes. Voilà, il y a trop de poussière, il y a trop de poussière. Il faut des routes. Je ne vois pas comment on peut traiter l'insalubrité juste en vous parlant de moustiquaires. Alors qu'autour, l'environnement, la poussière, vous la buvez, quand c'est pas la poussière, c'est la boue, ça se dépose sur tous les arbres, les zones sont forestières, vous avalez cela tout le temps. C'est limite si on n'est pas plus malade que ça, en fait, parce que ça rentre dans les maisons, vous ne pouvez pas faire autrement, le ménage n'est pas. Bon, bref, il faut les routes goudronnées. Il faut de l'eau, des forages, c'est ce qu'ils peuvent faire, puisqu'ils ne peuvent pas faire monter de l'eau, des systèmes d'eau courante, de distribution d'eau courante à la place de l'État. Il faut un éclairage, bien sûr. Et pourquoi il faut tout, voilà, des choses qui ont trait à ce qu'on dirait, on disait tout à l'heure sur l'environnement. Là, c'est peut-être pas institutionnel, mais c'est ça. Quand on veut faire du développement, bon, Trump et Moss qui sont à une autre échelle, hein, ça c'est, ils sont dans l'optimum, mais et vraiment on est même pas dans la croissance, on est dans une autre forme d'économie. Ici, c'est une économie basique. Économie basique, il y a besoin de quoi? Des institutions justement fortes qui traitent de ces choses-là. Vous voulez traiter la santé sans traiter la poussière, sans traiter l'état des routes. Vous voulez traiter la santé sans le climat, pardon, sans vous occuper des forêts et des cours d'eau et de la coupe de bois sauvage. Vous voulez traiter toujours tout ce qui est hygiène et prévention sans vous occuper, sans vous soucier du fait qu'il faut des forages et de l'eau potable à tout le monde et qu'ils soient entretenus, ces forages, parce qu'ils en font et ça tombe en panne. Il n'y a pas de suivi. Donc les question donc rapport avec l'effectif de Musk, et l'efficacité bien sûr. Vous voulez que les élèves, toujours même d'ailleurs, que les gens puissent sortir d'un environnement mental de pauvreté, de sous-développement, sans qu'il y ait un éclairage, la nocturne quand même. Bon, l'éclairage, c'est le frigo, c'est la ventilation, il fait très chaud, donc c'est l'alimentation, donc c'est le bien-être quand même, un minimum. Vous voulez que les gens puissent mentalement évoluer en les traitant comme des animaux, parce que là, il n'y a pas de lumière, la nuit, c'est noir, c'est un univers de la jungle, c'est l'animal. Donc, on maintient comme ça ces gens ici dans un univers animal, dans un code animal qui ne dit pas son nom. Et après, vous avez des gens. Pour aller voir la télé quelque part, ils font des kilomètres, mais c'est une honte. Et après, pas parce qu'il peut pas, pas parce qu'il n'y a pas Les gens peuvent s'acheter la télé, mais après, il faut aussi acheter tout le solaire, tout l'équipement. Bon, en fait, c'est toute une histoire de fou. Et là derrière, vous avez des enfants qui s'éclairent à la lampe tempête. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ça, c'est condamné, hein, échec scolaire. C'est parce qu'ils deviendront. Et là derrière, vous avez cette saison en agriculture. Elle est pourrie. Saison ratée. Pour les agriculteurs, moi je suis un peu, j'ai un pied dedans. 4 mois de chaleur depuis, déboisement terrible. Alors je ne sais pas s'il y a l'effet de harpe en haut là, parce que les pluies arrivent de façon absolument bizarre et mystique. Tantôt c'est à côté, tantôt ça... les pluies contournent, nous contournent et nous évitent. Enfin, évite la zone où je suis. Alors, l'expérimentation que je fais l'année dernière, c'était très bien. Cette année, ah, patatrac, au bout de 4 mois de chaleur, ça tue la saison. Et je comprends pourquoi les agriculteurs crient souvent quand on vit pas cela. On ne peut pas s'en rendre compte, oui. Moi, j'entendais en France les agriculteurs crier que la saison était a foiré. Mais alors là, ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elle a complètement foiré. C'est un désastre. Je ne sais pas si la Banque mondiale va faire quelque chose, mais il faut déjà être enrôlé et s'identifier comme agriculteur. Je ne sais pas s'il faut payer les impôts avant, parce que là, c'est autre chose. Là encore, c'est l'optimisation du bien public. L'idée, c'est de payer moins d'impôts et de vivre bien. Bien, pour finir, travailler avec EDF, oui, c'est EDF qui fait le barrage ici. Et EDF, bon, j'étais contente que ce soit EDF, hein, qu'on me pose la question. Alors, la question qu'on a posée après, c'est pour vous, c'est quoi la pauvreté? Ah. Comment redire tout ce que je viens de dire là? Est-ce que les gens sont très pauvres ici? Bon, en gros, je sais pas, la pauvreté extrême, elle se cache, c'est obligé, c'est obligé. On ne peut pas la débusquer aussi facilement, elle ne peut pas se montrer non plus. Il y a des enfants qui sont très sous-alimentés, c'est obligé. Comme j'ai dit, pas seulement les enfants, les familles, c'est obligé. On me demande aussi c'est quoi qu'est-ce que être riche. Franchement, ici, là, me demander c'est quoi être riche, je peux pas le dire, hein, parce que je me mets dans la peau de celui qui est là et qui est ici. C'est quoi être riche? Il va peut-être réciter comme tout le monde, avoir une voiture, avoir une belle maison. Un bon boulot, un bon salaire, je sais pas, pouvoir voyager, je sais pas, les modèles de la télévision, je sais pas trop c'est quoi être riche aujourd'hui. Mais déjà l'idée que Trump donne de faire comprendre aux gens qu'on est riche aussi du type de nation dans laquelle on vit, make America great again, c'est-à-dire que bon, voilà, on doit déjà américain, c'est tu es riche, cherche plus. Alors commence pas à pleurer, je suis discriminé, j'ai besoin des quotas. Commence pas à pleurer la journée, la femme, je suis une femme. Commence pas à pleurer la diversité. Et puis surtout, pas ramène pas, je vais changer de sexe. Sois heureux, sois bien. Nous, on fait tout là-haut pour que vous soyez bien. Vous voyez, c'est ce sentiment-là, on appelait ça avant, je ne sais pas si c'est le patriotisme, quand vous dites patriotisme, on vous dit vous êtes d'extrême droite, il ne faut pas le dire. Les mots sont connotés. Hein. Alors ici, là, au Cameroun, c'est ce sentiment comme ça. Ici, c'est camerounais, blablabla. Hein. Oh, même si c'est pas le cœur, c'est la foi chevillée au corps. Pas parce que je suis né là, ça ne veut rien dire. Mais parce que je vois que la nation se porte bien et que ce moule exemplaire, d'exemplarité, doit aussi me pousser à bouger, à avancer, à ne pas rester sur place, à ne pas trouver de fausses excuses. Vous voyez, c'est tout un monde et un regard sur la société qui change. Et c'est ça aussi le développement, en fait. Vous ne pouvez pas développer les gens autrement si vous ne changez pas Cela, bébé qui colle, ça va être un grand barrage, c'est très bien. On va, nous, je sais pas, peut-être des gens vont. Mais ça reste en deçà de tout ce que Trump et Musk sont en train de faire en termes de philosophie, en termes de dynamisme existentiel, en termes d'optimisme, en termes. C'est pas, ça dépasse la foi, c'est pas la foi, c'est autre chose. C'est ce qu'il y avait avant. Et aujourd'hui même, nous, on a fait ici au Cameroun, les élections présidentielles seront en octobre 2025. Je ne sais pas s'ils vont trouver un slogan comme le Make America Great Again. C'est maintenant. Peut-être que beaucoup comprennent ce que ça voulait dire. Parce que j'ai vu un Américain qui regrettait beaucoup, un noir. Oh, il était remonté contre les socialistes. Il y en avait un devant lui, enfin les démocrates. Il aurait pu le puncher. Il a tout raconté, comment ils les ont bernés et tout et tout. Et maintenant, il s'est dit, mais oh là là, il est démocrate jusqu'au bout. Et enfin, il est républicain jusqu'au bout. Donc, sans même citer Trump, mais là, parce que tout d'un coup, lui-même sent que tout ça est en train d'aller dans le bon sens pour tout le monde. Hein, c'est le bien commun, le bien public, c'est au-delà du roman. C'est une fusion collective comme ça qui se trouve ailleurs. C'est pour ça que je parlais d'anthropologie, parce que là, c'est une autre musique qu'on entend. Vous voyez, McLuhan appelait ça, le pape des médias, il appelait ça le village global, où même sans communiquer, bon, le tam-tam musical passe, les institutions, ah, voilà, tout ça tourne, et puis voilà, on est ensemble. Ici au Gabon, c'est ce qu'on dit, on est ensemble, mais en vrai, après, on est ensemble autour de quoi? On est ensemble autour de quoi? Il n'y a pas cette magie. Il n'y a pas cette magie, ça manque. Bon, amis de Radio Silence, je vous laisse hein, sur cette méditation, cette question philosophique. Qu'est-ce qu'être riche et qu'est-ce qu'être pauvre? On va me dire, vous vivez de quoi? Bon, probablement d'expédients, mais je vais dire, hein, en ce moment, comme moi je suis dans une atmosphère où je vois les choses se passer comme elles se passent en Amérique, eh bien, moi, ça me va. Je veux dire, on disait, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain, mais de toute nourriture qui sort. Mais là, c'est pas du religieux, c'est plus que ça. J'ai pas vraiment le mot à trouver pour dire comment l'être humain qui se sent en confiance dans un environnement peut donner le meilleur de lui-même. Et on va dire c'est de l'optimum. Amis des Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde d'Élise Bock. Je vous dis à bientôt.